relativement répandue. Et elles, ce qui les intrigue, c'est qu'elles peuvent, elles peuvent observer. Alors, il y a, un passage très très drôle, parce qu'elles citent un gars qui écrit dans Le Monde, en 1990 et quelques. Le gars est physicien. Mais de toute évidence, pas historien, je crois qu'il est physicien, mais il n'est pas historien de sa discipline. Et il va reprendre ce cliché, et il le reprend dans un texte qui, donc il dit, oui, il y avait plein de gens qui... tout le monde croyait que la Terre était plate, une seule personne avait raison, c'était Galilée. Donc il écrit ça dans sa Tribune du Monde. Et ce qui est assez amusant, c'est que le gars, en fait, il écrit ça pour défendre le climato-scepticisme.
Ah oui, d'accord. Seul contre tous.
Seul contre tous, okay, c'est okay. Ça. Mais ici, c'est une connerie. Voilà. Bon, on va fermer boutique. Voilà. Donc, c'était un livre de Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni, La Terre plate, généalogie du nid des fosses, et chez Folio Histoire.
Et vous aurez compris donc, que ce n'est pas un livre anti-platiste, mais anti certains arguments anti-platistes.
C'est ça.
Voilà. Bon, et on se retrouve dans 15 jours pour Jeudi Noir. L'émission elle est disponible sur le site de l'émission, comme toujours, jeudinoir.gurdulu.org, si vous souhaitez consulter les archives. Et on vous dit donc à la prochaine fois.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Pour cette émission, nous recevrons Pierre de Ruisseau. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Je vais faire une bref, présentation, tu es connaisseur ou passionné de musique, et plus particulièrement de musique qui touche aux cultures africaines, américaines, et tu ne te dis pas expert, historien, mais voilà, je pense que tu es suffisamment féru et sachant pour aujourd'hui pouvoir un peu nous apporter quelques lumières sur les mouvements d'émancipation des cultures africaines, américaines au cours de l'histoire. Avant de trop rentrer du coup dans ce sujet, aussi important, je pense, de souligner que tu organises des conférences. Il y a plein de sujets différents que tu abordes, mais voilà, avec une thématique généralement propre à une conférence et que tu animes, alors soit en interaction avec les personnes présentes pour savoir elles-mêmes ce qu'elles en pensent, ce qu'elles ressentent. Moi, j'ai eu la chance d'assister déjà à deux de tes conférences qui m'ont justement parlé, qui m'ont donné envie, voilà, de t'inviter aujourd'hui pour pouvoir discuter un peu de tous ces sujets. Mais voilà, peut-être que tu as d'autres choses à préciser.
Ouais, bah, raconter peut-être comment j'en suis arrivé là. Donc moi, je suis bruxellois, belge, et j'ai organisé des concerts pendant de nombreuses années, plutôt dans des milieux expérimentaux, création sonore, libre impro, ou alors des formes parfois, voilà, de musique plus de l'électronique ou du folk, mais qui étaient chaque fois un peu dans des forme d'écriture un peu haute, quoi. Et donc, pas tellement de musique, donc on dit africaine, américaine, c'est un, C'est l'appellation par laquelle cette communauté a tendance à préférer se faire se nommer, se faire appeler. Avant, on disait noir américain, puis on a dit, enfin en Europe, en France, langue française, puis on a dit afro-américain. Maintenant, on dit africain-américain, donc on parle vraiment de la culture, on va dire, des afro-descendants, la culture musicale des afro-descendants aux États-Unis d'Amérique. Et c'est à celle-là qu'à un moment donné. Donc, moi, voilà, je me fais maintenant un travail de transmission. Et voilà, et je suis pas, voilà, comme ça a été dit, je suis pas un historien, c'est pas mon point de vue, mon positionnement. Je suis pas musicologue, je suis pas passé par l'académie. Quand je dis je suis pas historien, c'est aussi pour dire que j'ai pas nécessairement lu tous les ouvrages importants, clés. Différentes choses en fait, c'était une recherche personnelle au départ, vraiment une passion. Au sein des musiques afro-américaines, à l'époque, je travaillais pour une médiathèque à Bruxelles et on nous a demandé au personnel qu'on ait ou pas du talent d'écriture, hein, mais de faire des chroniques de disques ou de films, etc., pour le blog nouveau, quoi. Et moi, j'avais commencé à faire un peu une recherche sur les expressions musicales de cette communauté, mais dans des aspects qui ne sont pas juste musique écologique ou historique, je m'intéressais tiens à des éléments qui accompagnent les musiques, qui sont parfois dans la musique mais aussi qui l'accompagnent, qui l'entourent, les pochettes de disques, les costumes de scène, la scène de concert, les clips vidéo, les coupes de cheveux, arrangements de cheveux, etc. Et alors évidemment le choix de certains rythmes, de pas de danse, les paroles dans les chansons évidemment, mais donc tous ces éléments là qui... Je réalisais, envoyer des messages, je sentais qu'il y avait un peu des allusions qui étaient faites dans les pochettes de disques à travers certains de ces éléments-là, dans les clips vidéo, et à travers un langage métaphorique, métaphorique, poétique, mais qui avait une dimension que je pressentais un peu archétypale, mythologique. Et je me suis intéressé à ces aspects-là, mais sans avoir un background ou être passé par une formation. Et de fil en aiguille, bon voilà, après avoir écrit quelques posts sur le blog de cette médiathèque à propos de des significations des légendes, des croyances et de grands faits historiques aussi, et pas mal liés à la lutte contre le colon autour de la coupe afro et des dreadlocks, j'ai réalisé en fait qu'il y avait voilà, derrière des éléments qu'on peut prendre comme des choses qui entourent la musique, qui sont des modes, des expressions. Et je réalisais qu'en fait, je voyais des archétypes, des iconographies où j'entendais des paroles, des mots, etc., qui revenaient à travers plusieurs générations de musiciens, musiciennes, à travers le temps, quoi, dans des styles différents de cette musique black américaine. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe de main en main au fil des décennies, voire siècles, mais qui est chaque fois un peu adapté à la situation du moment et qui fait référence. Au début, je ne savais pas trop à quoi ça faisait, alors je m'étais intéressé à ce qu'on appelle l'afrofuturisme aussi, parce que ces archétypes prennent parfois des formes, sont réactivés, sont déclinés dans des formes parfois science-fictionnelles, futuristes, tout ça. Donc je me suis intéressé à l'afrofuturisme, et puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, ce à quoi je mettais le doigt, c'était plus large que ce qui se mettait en mots, en tout cas à une certaine époque, parce que maintenant ça fait déjà presque 20 ans que ces recherches sur l'afrofuturisme ont démarré, c'était en 93, le Marc Derry, mais qui voyait plus les choses sur un aspect voilà, des imaginaires, futurisme, qui imagine un peu des mondes futurs, des réalités, des devenirs possibles, peut-être de sous forme parfois utopique, liées, mêlées de technologies, de science-fiction, et qui sont l'occasion de faire face à une certaine ségrégation, à un racisme, à différentes difficultés et l'héritage lié à l'histoire de cette communauté. Au début, c'était beaucoup afro-américain, puis maintenant, vraiment, le mouvement, l'intérêt, cette lecture, s'est ouverte à vraiment plein d'autres pans de la diaspora africaine et même de l'expression d'artistes africains. Et à un moment donné, moi, je voyais que, tiens, mais c'est pas seulement une question de résistance politique, sociale, avec une sorte de fuite en avant dans le futur et la technologie, mais que c'est sérieux. Ces images renvoyaient à des archétypes hyper anciens, des mythes parfois bibliques ou égyptiens, et qui renvoyait donc un autre rapport au temps, quoi. J'ai commencé à faire des recherches, il allait les transmettre dans une forme de conférence, mais qui progressivement ressemblait plus à du conte que de la conférence académique, conte, séance d'écoute, où l'idée n'était pas tellement de faire une conférence sur cette communauté dont je ne suis pas membre. Je voulais surtout pas prendre une posture d'anthropologue, ethnologue qui parle d'une autre culture. Je voulais pas, parce que ces mythes, entre autres, s'ils sont bibliques, ils ont façonné notre héritage culturel occidental, etc. Les grandes questions humaines qu'elles charrient, ces mythes, sont des questions à laquelle la communauté africaine-américaine a été confrontée, mais ça renvoie à des questions qui sont les nôtres, qui sont parfois étudiées par des gens de disciplines différentes, des historiens, des musicologues. Des politologues, des gens qui font de la sociologie, il y a aussi des éléments qui touchent à l'histoire des religions, de la spiritualité, voire de l'ésotérisme. La tradition afro-américaine, c'est rempli les questions venant de lutte sociale, vu que c'est ça qu'on va parler, de résistance, de grands thèmes humains. Tout ça se mélangeait parfois dans une même expression, quoi, un même champ un peu métaphorique qui permet d'avoir plusieurs couches de sens, quoi, qui peut parler autant des relations humaines, parfois même des histoires romantiques, et en même temps qui parlent d'engagement politique ou de données spirituelles. Avec la même phrase que tu peux utiliser dans différents contextes ou vouloir dire plusieurs choses, et qui avait un goût vraiment très fort dû à un héritage africain, Afrique noire, pour ce langage très épais, plein de sens, et qui se passe de génération en génération, où tu utilises les grandes images, les thèmes des ancêtres, les légendes, mais aussi les faits historiques, les thèmes qui ont accompagné les générations précédentes dans leur propre lutte, tu les reprends pour la traversée des tiennes de lutte, parce que c'est une manière de s'appuyer sur la force des autres, quoi, de ceux qui ont précédé, d'être porté, de se sentir pas juste seul là, à affronter quelque chose, mais de bénéficier un peu de ce qu'ont traversé les ancêtres. Ça te donne confiance que tu peux y arriver, etc. D'où le fait de rechanter parfois, des décennies plus tard, un siècle, des vieux négros spirituels qui avaient aidé certains esclaves à s'enfuir ou à affronter les difficultés, à se donner du courage à affronter les difficultés. Tu les chantes 100 ans plus tard lors de marches pour les droits civiques, ou encore même après, parce que eux, ils disaient « History repeats itself », l'histoire se répète. Ouais. Et je transmets ça dans une forme entre le conte, la conférence, d'une manière assez créative et de plus une volonté de faire quelque chose d'immersif. Et alors, comme tu mentionnes, j'ai des séances qui sont interactives aussi, parce qu'à côté de ça, à côté de d'une passion pour ce langage métaphorique, mythologique, les grandes questions humaines, je m'intéresse au pouvoir de la musique, comment la musique active des choses.
Ouais, t'approches beaucoup la question du sensible.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle va venir mobiliser chez nous, comment elle va nous toucher. Donc pas juste qu'elle soit pas juste une occupation un peu bourgeoise ou un divertissement. Ah, ça meuble agréablement les heures. Mais ça devient dans l'histoire de la communauté afro-américaine, c'est vraiment évident. Enfin, c'est très présent. La musique devient un survival kit, quoi. Un kit de survie avec plein d'outils dedans. C'est vraiment une boîte à outils. C'est un soutien. Il y a des parts, même dans les négros spirituels, il y a des airs qui servent à quantité de choses, à t'aider à moins te sentir seul, à te protéger du trauma, à faire que, par exemple, lors de moments où tu pourrais être battu, soit par le maître esclavagiste ou plus tard par des policiers ou quoi, tu vas chanter certaines choses pour que le coup ne touche que, on pourrait dire, que ta chair, quoi. Ils vont le chanter même. Tout d'un coup, ils ont l'impression d'être forts, et ils créent un autre climat qui n'est pas le climat de peur qui a essayé d'être induit.
Ok, du coup, on va essayer de faire défiler un peu. Bon, on a assez peu de temps, donc on va être très loin d'aborder toutes les subtilités, je pense, du sujet et toutes les anecdotes, mais ce sera, je pense, pas mal de. D'évoquer certains faits historiques marquants, enfin de l'histoire, qui vont bien, je pense, mettre en valeur les problématiques qui ont existé. Et avant ça, peut-être faire un petit point sur voilà, qu'est-ce que la black music ou ce genre de choses, ou voilà, la question de la black music, c'était un nom donné, ça a beaucoup fait débat. On va peut-être éviter de rentrer trop dans ce débat qui a été déjà bien poncé, mais en tout cas je pense qu'on peut souligner qu'il y a des cultures africaines-américaines qui sont construites avec le temps, que le racisme est systémique et que les communautés racisées ont toujours dû subir et se battre pour défendre leurs droits. Et donc il va pas être question ici, je pense, de trop essentialiser les personnes et les musiques, mais de mettre, voilà, en lumière certaines créations, certains mouvements historiques, certaines musiques qui, ben voilà, qui relèvent de ces spécificités.
Ouais, je crois que parfois le débat, là où on a, où c'est parfois difficile, parce que certains disent, ah, mais comment on peut parler de musique noire, comme si c'était quelque chose qui émanait du fait qu'on a de la mélanine dans le derme, ou qu'on est... Voilà, une couleur de peau, comment c'est essentialisé, racisé, là. Est-ce que vraiment, surtout que par exemple, si tu parles du jazz, ben, le jazz, il s'est fabriqué avec pas mal d'éléments de musique occidentale, quoi, de la musique militaire, de la musique savante. Alors évidemment, il y a des rythmes qui viennent d'Afrique de l'Ouest et autres, mais enfin, et de la musique ashkénaze, juive, donc il y a plein d'éléments de plein d'endroits, quoi, du monde. Donc on n'est pas, c'est sûr que c'est pas l'expression juste de ce qui serait être. Voilà, juste parce qu'on est descendant d'une communauté Afrique noire, je crois pas qu'il faut trop. Là, on risque de se perdre avec, en effet, rentrer dans des choses qui sont glissantes, quoi, comme terrain. Mais je crois que la communauté elle-même, parce que c'est parfois des critiques musicaux en France qui parlaient de musique noire, etc. Mais la communauté elle-même aux États-Unis parlait de. The black music, quoi. Great black music, disait l'Art Ensemble of Chicago, parce qu'eux-mêmes parlent d'eux-mêmes en disant black people. Je crois que c'est né aussi à cause, c'est le fruit d'un contexte, comme tu soulignes, que le racisme envers cette communauté-là était vraiment très très dur. La ségrégation, donc la mise à l'écart, la limite tracée vraiment, hein, autant on voit, c'est bien les bus, les espaces publics, les toilettes. Des villes, des quartiers beaucoup plus... enfin voilà, à plein d'endroits. Il y avait des amendés quand il y a des concerts où il y avait deux... enfin, des membres des deux grandes communautés blanches américaines, noires américaines qui pouvaient assister. Dans les États du Sud, il y avait des policiers qui tenaient des cordes pour séparer d'un côté les blancs, d'un autre côté les noirs, les afro-américains. Donc, ben voilà, il y avait évidemment un sens d'une communauté. Ben, on est qui, nous, ce peuple noir, et une musique qui va être l'expression de ce peuple et de son besoin de se recréer une identité et d'exprimer. Moi, je crois qu'il faut l'entendre aussi, je crois, black music, elle est l'expression de circonstances, quoi, d'un peuple mis dans certaines circonstances où justement l'expression musicale va, comme je le disais, pas du tout être juste un divertissement. Même dans les musiques de divertissement, elle va être aussi ce survival kit, cette occasion de remplir plein de fonctions et devenir du coup quelque chose de hyper précieux, quoi. Et un soutien indispensable, quoi. C'est pas pour rien, Bob Marley, dans une de ses chansons, hein, célèbre, celle qui ressemble le moins à un reggae, un Redemption Songs. Il chante, il termine un All I have. Tout ce que j'ai jamais possédé, c'était ce chant de liberté, c'est quoi, ces chants de rédemption.
Ce qui peut ne pas être enlevé, en fait.
On s'est pas torturé, c'est tout ce que t'as jamais... All I have... Il chante ça, c'est ces chants-là, parce que ça, même dans les états, on te met en prison, on te maltraite, tu perds des choses, t'as ces chants qui peuvent t'accompagner, t'as cette musique et qui t'aide et qui te soutient, donc c'était un patrimoine hyper fort, dans des circonstances, mais aussi parce que, voilà, il te lie aux générations d'avant, et puis à chaque époque, les Afro-Américains ont fait preuve d'une créativité incroyable à travers les décennies, le temps. Donc, pendant que les blancs américains, ben, ils étaient fort occupés à d'abord découvrir le pays, commencer à l'administrer, le gérer, etc. Leur musique n'a pas tant évolué, elle s'est un peu hybridée entre de la polka, des folk songs, des ballades anglaises, etc. Mais enfin, pendant tout un temps, la musique et les danses, c'était des choses qui n'avaient pas tant évolué. Et tu vois, pendant ce temps, les Afro-Américains, tout ce qu'ils vont inventer, quoi, et qui va nourrir les musiques des autres communautés. Donc, c'est aussi, je crois que cette appellation black music, c'est pour nourrir aussi cette fierté d'avoir ce patrimoine qui est d'un tel support et qui est d'une richesse et d'une créativité, qui est traversé d'un mouvement créateur, pour des bonnes raisons d'efficacité, quoi, et de et il faut l'entendre, je crois, comme ça, black music. Maintenant, c'est sûr que l'époque évolue, même si c'est pas toujours, c'est pas encore gagné l'égalité de droit, etc. Et que voilà, la black music s'adresse plus du tout seulement à la communauté, hein, des artistes mondiaux. La communauté africaine-américaine devient presque minoritaire dans leur vente, hein, pour des artistes comme Beyoncé ou plein d'autres. Ouais. Mais malgré tout, elle est très consciente, par exemple, de son héritage. Elle y fait allusion dans des moments parfois un peu touchy, d'ailleurs, comme dans le Super Bowl, son apparition, où elle vient, donc un truc... un match de foot, et, enfin c'est la finale des matchs de foot américain, où il y a un concert, enfin ce petit concert, et on veut faire de l'entertainment, justement du divertissement, et elle est arrivée avec ses danseuses et tout en des vêtements qui évoquaient les Black Panthers, quoi. Ça fait grincer les dents certains, quoi, parce qu'on voulait du divertissement avec cette grande star, on voulait pas seulement quelque chose d'un peu politique, et surtout qui pouvait dualiser comme ça les blancs, les noirs, enfin... Enfin bon, voilà, c'est vrai qu'on va pas. Moi, je m'intéresse à ces musiques-là. La question qu'elle est black américaine, oui, c'est sûr, mais en même temps, elle nous a. Elle est partie de ce. Elle provient de ce peuple-là, mais elle a tellement aussi nourri des êtres d'autres cultures, nous, blancs, européens ou autres, ou des maghrébins, ou n'importe, des personnes en Afrique, des asiatiques. Et qui en ont fait pour eux-mêmes, c'est devenu des musiques qui font partie de leurs jeunes, qui sont des soutiens comme ça, vraiment incontournables, qui font partie un peu de notre culture. Ouais, quantité de chanteurs français s'inspirent de musique afro-américaine, enfin je veux dire...
Ouais, voilà, il y a eu plein d'allers-retours après qui se sont faits, donc, de fait.
Et quantité de gens, maintenant, font du hip-hop, est-ce qu'ils font de la black music? Quand tu fais du rap, tu fais de la black music? Ben non. C'est sûr. Et de toute façon, dès le départ, le mouvement hip-hop, quand il a été pensé par Afrika Bambaataa, c'est la Universal Zulu Nation. C'est même pas la nation zoulou terrienne, quoi. C'est universel.
Over and MCN is an art. out the way.
So check out the way.
So check out the way we introduce her. She's Issa Lee, you're from the top of the key. You know I'm guaranteed to be the queen of MCs.
And he's Issa Chubby Chub from the heavens above. No, I never met a girl that I couldn't shook up. And he's Issa Ice Ice to Shaka Rocker on the mic. And doing it on, doing the high power, doing it right.
He's little Ike singing on the melody. Now all you young ladies get sexy. Do it!
Hey, this is a story from the yesteryear.
I said before it was the whack, but now the ladies here.
Then we climbed the ladder, say one by one.
And while we did it, we spread it some fun.
Say we're changing the table so you can clap your hands.
And then we add a little music so y'all can dance.
You like a style, but you just start
for young ladies.
I'll come and pick your choice.
Chubby Chub,
Ice Ice,
a little Ike C.
We are the 3MC. Lisa Lee, you're the queen.
Go girl, just get on the mic and do your own thing.
So put your hands in the air and listen to me. Cause you listen to the voice of MC Lisa Lee. Don't play no games, don't bite no style. When you came through the door, we gave you a smile. We want you to get loose, get ready to rock. We're gonna paralyze your mind and put you in shock. We're gonna make you wanna yell, scream, shout. We're gonna let you know without a doubt exactly what we be about. Rock to the sounds that make you dance. Make the ants crawl in your pants. Put you in a music trance. Listen to the beat and let yourself go. Cause everybody knows this is nothing but a disco. Rock, shock, sure, shy. This ain't a Broadway play or a high school plot. It's the real deal that makes you feel like you got sex appeal. And the part of people in the place should feel the bass. Can you check out the house? Check out the grace. So wallflowers in the house, this is your chance to show everybody that you can dance. Pump rock to the left and patty duke to the right. Move your body now, you can do it all night. These are the devastating words that you never heard before. I'm Lisa Lee, huh? I got rhymes with yours. So young ladies out there from the heavens above.
That's right, never met a girl that I couldn't shook up. So won't you clap your hands and have some fun? It's a super dynamite. MC Chubby Chub.
You don't stop, you don't stop.
Put it all together, girl, because we're starting to rock. To all the young ladies, yes, the name is Chubb. Say I didn't tell you to ask for your love. Cause I'm a cuckoo kid with a healthy mind. And I figured that boy that will always take time. I'm looking for a girl that I can call mine. When she walks down the street, the sun will shine. To all the young ladies, I'm talking about me. Cause I'm looking for a girl that's so unique. I'm not looking for a girl that drives a car. To me, she'll always be my superstar. Cause I'm looking for a girl with a beautiful smile. And a young lady that's worth my while. Young ladies out there, don't you get uptight.
Cause me, baby doll, and see, I'm such like a white guy. Real sweet lemon peel. Now the MCs, they know the deal. That we always rockin', we can't be stopped. Wherever we rockin' in the latest spot. I said the other MCs are standing taller, but they're taller than all. The harder the fall, cause we the funkadelic of the microphone. Because we are the MCs, that's all in all. But when we get on the mic, it's back to back. I said with the crew that leads the pack. And we'll teach the lessons that to never forget. Because we are the MCs that ever does. We're on to the crack of dawn. We're on to the crack of dawn. Young ladies, he from the top.
He
little Ike singing on the master rock. You don't stop, you don't stop. Talk about the ding, 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 ding. That thing that you call that body rock. Now I'm never taking something called my heart. It was a real jazz lady, she was so fly. She had long hair and clothes so fine. I said, I'ma keep rapping and tell your mind. I said, I'ma rap for just about an hour. Cause I knew the young lady was sure the high power. And the way she moves is like grace is strong. And we can make love to the break of dawn. And the way she moves is like grace, but don't say, could it be? I'm falling in love. Will you be mine? Is what I said. Why don't you chill out?
Yo.
Just give me a play. You don't stop. You don't stop. Say, what's the name of this nation?
Zulus. Zulus. And who's gonna get on down? Bam, bata. Bam, bata.
Say,
what's the name of this nation? Zulus. Zulus. And who's gonna get on down? Jazz J. Jazz J.
Say, what's the name of this nation?
Zulus. Zulus. And who's gonna get on down? Bam, bata. Bam, bata.
Say,
what's the name of this nation? Zulus.
Bah voilà, une question que je vais ouvrir, de voir ensemble quelles ont été les dimensions de lutte et de résistance par ces musiques. Chaque époque, chaque style a eu un peu voilà, ses manières de faire, ses sujets. Je te laisse un peu guide de voir par où tu veux aborder la question. Ou...
Ouais, on pourrait l'aborder de deux façons. À des moments donnés de l'histoire, donc localisé à un moment donné dans le temps, et à un certain endroit géographique avec un contexte social, politique défini, des expressions musicales et de chants sont apparues pour accompagner des mouvements de lutte qui étaient par ailleurs parfois organisés par des mouvements, des associations, etc. De plein de types différents, quoi. Comme certains chanteurs de soul ou des musiciens de free jazz ont été présents lors des meetings des Black Panthers, ou comment certains négros spirituels ont été utilisés en changeant un peu le mot lors de la marche pour les droits civiques et à d'autres moments lors de lutte ouvrière, et pas uniquement d'ailleurs dans la tradition, dans la culture afro-américaine, autour de ce qu'on appelle les Freedom Songs, et qui étaient donc relayés par des associations qui étaient très conscientes du geste qu'ils posaient en reprenant ces patrimoines musicaux. Donc on pourrait dire, ah oui, des moments typiques, et c'est intéressé, et ça serait... Mais en même temps, moi, mon prisme, et ce qui me fascine, c'est de voir que... Et c'est ce que j'essaie de faire apparaître parfois dans les séances que je donne, c'est que si on commence à regarder toutes les époques, les époques et les styles de musique, les grands styles de musique africaine-américaine, black music, on voit qu'en elle, il y aura une dimension plus ou moins importante selon un peu justement le style de musique, mais c'est assez bien là toujours. Il y aura toujours une dimension de lutte et de résistance. Sur un certain axe, et une résistance à quelque chose qui est peut-être pas toujours la même chose, mais il y a une forme de résistance, de lutte, pas nécessairement. Donc, par exemple, il y avait des négros spirituels, comme je disais, qui étaient utilisés dans des moments même d'affrontement quand tu avais la police en face de toi, etc. Donc là, on est vraiment dans le moment même de la lutte, etc., ou lors des meetings pour encourager les gens à rejoindre le. Mais tu as aussi une expression musicale, des chants qui peuvent être accompagnés des luttes qui sont plus, comment dire, plus sous-jacentes, quoi, qui sont plus de la vie de tous les jours, qui ne sont pas là du moment du meeting, de la manifestation ou de telle chose. Parmi les toutes premières expressions musicales, donc les folk songs, ben, y a ce qu'on appelle les work songs, les chants de travail, de chanter selon un certain rythme qui est découpé selon la gestuelle du travail que tu as à faire, par exemple casser des pierres pour faire une route, ce que certains prisonniers ont fait, mais avant des esclaves, ou couper du bois pour faire ceci, cela, ou faire certaines récoltes, etc., de chanter selon un rythme qui correspond à la gestuelle du travail, mais en trouvant un rythme de chant qui fait que tout le groupe d'hommes, de femmes qui travaillent peut suivre ce rythme-là. Ça ne sert à rien d'aller trop vite parce que sinon il n'y a que les plus forts qui savent suivre, et il ne faut pas aller trop lentement, sinon tu es justement réprimé par les contremaîtres qui te fouettent parce qu'ils ont une certaine idée de la productivité qu'ils veulent atteindre. Donc si tu ne travailles pas assez vite, t'es fouetté. Et donc le work song, il était là pour te protéger déjà de ça, quoi. Mm-hmm. Te protéger d'abord du coup de fouet. On chante tous à un certain rythme qui fait qu'on sait le tenir, qui fait que le travail avance bien et que donc les contremaîtres sont un peu plus relax, quoi, satisfaits. Par ailleurs, le fait de chanter te donne une impression de plus de retrouver de la puissance parce que tu chantes avec les autres, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul dans ton coin à déprimer sur le travail et la dureté et ton corps qui a mal. D'ailleurs, le chant te fait oublier un peu la douleur ou ta faim. Ça, il y a plusieurs témoignages de ça. Lead Belly qui raconte ça et d'autres. Et par ailleurs, permettent aussi dans les paroles de faire des allusions à des choses qui ne pouvaient pas être dites en face à face, quoi. Des critiques sur la dureté du travail ou des moqueries sur le blanc, sur le contremaître, que si tu disais à voix haute en face à face, pouf, t'étais battu. Mais en le disant de manière un peu métaphorique dans un chant qui aide à faire que le travail se passe bien, ben, tu arrives à le dire. Donc tout ça, c'est de la résistance. Tu résistes à la déshumanisation du boulot, quoi, par le travail, parce que le travail qui était donné aux esclaves n'était pas en phase avec les besoins d'un être humain. Dans le travail donné aux esclaves, c'était les maîtres, dès qu'ils ont des moyens, sauf ceux qui avaient que quelques esclaves, mais ceux qui avaient plein d'esclaves, ils étaient assez cyniques. Ça sert à rien que l'esclave y vive au-delà des 40 ans et qu'il soit moins fort et qu'il travaille moins bien, mais que tu continues à l'entretenir. Donc on essaie de puiser leur vitalité au mieux, quoi. Et s'ils meurent, il n'y en a pas beaucoup, à part les domestiques, quoi, qui vivaient au-delà de 45 ans, quelque chose comme ça. De par la fatigue du travail, la mauvaise nutrition et les mauvais traitements. Et par le beat aussi qui était créé, le son, par les chocs que faisaient les marteaux ou les cogniers ou d'autres choses quand il y avait un outil, redonner aussi une force, quoi, un tonus.
Mmh. Ouais, par la synchronisation aussi.
Ouais, voilà. Tâches, comme ils chantent ensemble, au lieu de faire un brouhaha, s'ils devaient casser des pierres tous sans chanter, ça ferait un brouhaha qui participerait à te fatiguer et à te démoraliser. Mmh. Mais si tu le fais en chantant, tout le monde frappe plus ou moins au même moment ou dans des moments alternés qui permettent, par exemple, de couper un arbre par différents côtés sans se blesser l'un l'autre. Mais ça fait une rythmique qui fait que le son est plus sec, plus fort, marqué, et ça te renvoie quelque chose, en fait. Le work song permet de... Tu fais pas que donner ton énergie pour abattre le boulot qui est bénéfique au maître, ça te renvoie quelque chose, quoi. Donc ça, c'est une forme de résistance. Les négros spirituels, on connaît évidemment ceux qui ont aidé par des codes, à aider à s'enfuir, donc ça, c'est aussi une manière de résister par la fuite via des systèmes d'entraide, underground railroad, mais au-delà de ça, il y avait des négros spirituels pour t'aider à lutter contre la solitude, le fait d'avoir vécu des choses hyper dures, mais que tu peux pas raconter, parce que tout le monde a son lot d'atrocités. Donc, nobody knows the trouble I've seen, personne connaît les troubles, les duretés que j'ai vues ou que j'ai eues, sauf Dieu, c'est ça qui est chanté. C'est une manière de se dire, de se rattacher, d'adresser à une conscience, ils sont fort croyants. Il y a des négros spirituels pour t'aider à te protéger du trauma, comme on disait, ou à changer l'atmosphère, à donner des codes pour s'enfuir, à donner du courage, quoi, à donner du courage pour affronter les épreuves, wade in the water, mais aussi à traverser l'eau, les rivières quand tu t'enfuis pour brouiller les pistes des chiens. Mais ceci, the water, c'est to wade, c'est un verbe qui veut dire pénétrer, s'engager dans un milieu qui te résiste, que ça soit par exemple l'eau. Donc c'est pas juste jusqu'aux chevilles, c'est tu rentres dans l'eau, une rivière, et voilà, il y a une force qui s'exprime contre toi et qui te détourne de ton objectif. On t'invite à tenir, à résister justement, essayer de résister à ce courant qui va t'emporter, qui va peut-être faire que tu te noies. To wade in the water, c'est un chant qui était utilisé lors des marches pendant les années 60 pour chanter ça lors des meetings, pour inviter les gens à rejoindre les marches, parce que tu savais que tu allais te faire, il y a des chiens, il y a des jets d'eau, il y a des matraques, il y a de l'emprisonnement. Donc c'est une eau qui te résiste, quoi, cette marche. Mais si tu arrives de l'autre côté, tu seras transformé, c'est ça qui est raconté.
Well, Mr. Ledbetter, since it's almost time for us to go back to school and get back to work again, how about singing one more work song for us? How about the one called Take This Hammer?
Oh, that's mighty fine. That's my theme work song. And you know that about that song? There's something a little funny about that song, different from all other type of work songs. Every time the hammer says, ha, the men, the hammer falls. And every time they say, ha, that hammer rings. And every time they say, ha, then they swing. And every time they say, ha, then they sing. Take this hammer and cat and give it to the captain and tell him I'm gone. I'm going to ask the children to join us with me in a few minutes when I get over there.
Take this hammer, ha, and carry it to the captain. Ha, take this hammer, ha, and carry it to the captain. Ha, take this hammer, and carry it to the captain. You tell him I'm gone. You tell him I'm gone. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? If he asks you, was I you tell him I was blind. You tell him I was blind. Come with me now, chillin' all the way through there. If he asks you, was I leaving? If he asks you, was I leaving? If he asks you, was I you tell him I was crying. You tell him I was crying. I don't want no cornbread and molasses. I don't want no cornbread and molasses. I don't want no cornbread and molasses. It hurts my pride.
it hurts my pride. Take this ham and carry it to the captain. Take this ham and carry it to the captain. Take this ham and carry it to the captain. Tell him I'm gone. You tell him I'm gone.
Voilà, nous venons d'entendre le morceau « Take This Hammer » de Lead Belly, dont nous parlions un peu plus tôt. Dans ce morceau, il ponctue la chanson avec des « Ha !» C'est celui des employés des chemins de fer. Pour aller un peu plus dans les détails de sa vie, nous pouvons évoquer le fait que Lead Belly est né dans une plantation qu'il a également connue de nombreuses fois, le mitard et la prison, du fait de nombreuses bagarres ou d'accusations de meurtre. Voilà, une vie très riche qu'il a su remettre en chanson. Et maintenant, écoutons le morceau « Follow the Drinking Gourd », longtemps chanté et transmis de manière orale pendant cette époque où se mettait en place le Underground Railroad, que l'on a évoqué un peu plus tôt également, et qui était un réseau clandestin qui aidait les esclaves à fuir le sud en direction du nord. Cette chanson indique aux fugitifs de suivre « The Little Dipper », c'est-à-dire la petite louche, et nommée ici « The Drinking Gourd », qui fait référence à la constellation de la petite ours, et donc qui indique de suivre l'étoile polaire pour se diriger vers le nord.
When the sun comes back and the first quail calls, follow the drinking gourd. For the old man is a-waiting for to carry you to freedom if you follow the drinking gourd.
Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is a-waiting for to carry you to freedom if you follow the drinking gourd.
The river bank will make a very good road. The dead trees show you the way. Left foot, pig foot, traveling on, following the drinking gourd.
Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is a-waiting for to carry you to freedom. Follow
the drinking gourd. Where the great big river meets the little river, follow the drinking gourd. For the old man is a-waiting for to carry you to freedom if you follow the drinking gourd.
Follow the drinking gourd.
Follow
the drinking gourd. For the old man is a-waiting for to carry you to freedom if you follow the drinking gourd.
À plein de niveaux, même dans le jazz, on pourrait dire, ah, mais le jazz, c'est une musique, au début, oui, de divertissement, d'amusement, d'excitation, qui aidait à faire mieux fonctionner le business des bordels et de la vente d'alcool dans la Louisiane, etc. Mais en même temps, c'est une musique qui se veut distinguée, qui se veut pleine de virtuosité, où on est en groupe. C'est une société, c'est une image d'une société de personnes qui jouent ensemble de manière qui est passée par une certaine discipline, tout un savoir-faire. Donc elle a acquis vraiment un bagage, c'est une école qui te grandit et t'apprends, tu passes par une discipline, mais en même temps qui te permet de t'amuser. C'est une musique qui essaie de te remettre en phase avec la pulsation du vivant, en fait, le rythme qui te soutient, quoi. Dans ce qu'on a balayé là, je me dis qu'on n'a peut-être pas parlé du free jazz, surtout que quand je parlais du jazz, ben moi, à ce moment-là, je parlais aussi un peu plus du jazz des années 30, le swing, qui va être vraiment l'occasion, parce que c'est une musique plus orchestrée, etc., et qui va pas mal plaire aux blancs américains, qui va être l'occasion pour certains d'arriver à une certaine reconnaissance, réhabilitation des personnages comme Duke Ellington, etc., et où ils ont dû faire beaucoup de compromis, en fait... Ce qu'on entend sur disque ne correspond pas à ce qui se jouait vraiment, et encore moins à ce qui se jouait dans les clubs afro-américains, parce que les labels étaient tenus par des blancs américains. Et à un moment donné, dans les années 30, il y a de plus en plus de personnes blanches américaines qui s'intéressent à cette musique, et il y a des orchestres blancs américains aussi qui apparaissent. Et donc, quand on veut graver un disque et qu'on sait qu'une partie des acheteurs vont être blancs américains, ben, on demandait aux orchestres, ah non, pas cet arrangement-là, ou ça c'est trop, il y a trop de polyrythme, et ceci, et non, pas avec ce musicien-là, on va changer, et non, pas ce morceau-là. Et donc, ils n'avaient pas, ça correspond pas vraiment à leur goût, quoi. Je crois aussi que c'est pour ça que quand ils parlent parfois de great black music ou de black music, c'est en référence au moment où il y a des labels tenus, une industrie du disque tenue par des Afro-Américains, les labels Motown, Stax, etc., qui vont permettre de développer le goût et le son, même si tu t'adresses aussi à un public blanc américain malgré tout aussi, mais qui va permettre d'avoir un meilleur son, enfin un son plus proche du goût interne. Mais pour revenir au free jazz, voilà, c'est que là on est quand même à une époque dans les années 60 où justement une volonté apparaît de non seulement arrêter de faire de la musique dansant, du jazz dansant comme avec le bop, hard bop, etc., et de faire une musique plus expressive, etc., parfois plus technique, mais non seulement il y a ça, ne plus faire danser, mais il y a une volonté de même ne plus jouer de l'instrument comme on nous a appris qu'il faut en jouer, ou comment c'est attendu, ou ne plus écrire, enfin c'est même plus écrire, ne plus déployer un morceau selon un type d'écriture qui est un peu attendu, avec une certaine tension vers... chronologique, avec un thème qui s'installe, qui se déploie, à un moment donné un break ou un bridge et puis une résolution, et comme ça, et on sait que ça va se faire comme ça et ça t'emmène quelque part, et il y a une volonté de couper avec ça, d'être dans de l'improvisation pure, dans de l'ici et maintenant, donc dans quelque chose beaucoup plus du cri, dans quelque chose où tu sais pas les secondes d'après ce qui va être joué, et une manière de revenir à là, qu'est-ce qui se passe maintenant, et qui était une manière de souligner aussi le moment décisif dans l'histoire. Voilà, on est 100 ans après l'abolition de l'esclavage, les mouvements de lutte pour l'obtention de droits civiques égaux. Il y a une sensation par la communauté que c'est un moment décisif, quoi, un tournant possible, et qu'il faut le jouer, quoi. Il faut rassembler les énergies, se libérer, s'émanciper aussi de encore certains héritages. Ben voilà, dans le jazz, il y a beaucoup d'influence de ce que c'est une belle mélodie, de comment la musique doit être faite pour que ça soit beau, quoi. C'est quoi le sens du beau? Ben, un sens du beau blanc occidental, il y a quand même une forte influence de ça. La rythmique est plus à l'arrière au service, c'est plutôt la mélodie et faite d'une certaine façon. Et le free jazz veut se libérer aussi de ça, et accompagné par le cri, par cette décharge d'énergie, et beaucoup de feu aussi, et cette volonté de jouer autrement de l'instrument, vraiment de faire rupture, quoi, pour rassembler les forces, les condenser, et peut-être faire levier ou passage. Et c'est pas pour rien que c'est une musique qui était parfois invitée, jouée lors des meetings, des mouvements Black Power ou autres, à côté d'autres chanteurs, chanteuses de soul, mais le free jazz, enfin il y a cet ouvrage de Komoli et l'auteur, elle est Free Jazz Black Power, qui est quand même assez inspirant pour comprendre ce qui s'était fait comme geste à ce moment-là. Ça, c'est quand même aussi, je trouve, un moment où là. Alors qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de textes, hein, dans le free jazz, il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est plutôt du son, mais par exemple, voilà, ça allait. Tu vas trouver des. Bon, alors là, on n'est pas tout à fait dans le free jazz, à la frontière du hard bop, mais des personnes comme Max Roach qui font cet album We Insist. Now, on insiste là maintenant, sur la pochette, tu les vois là, eux, quelques Afro-Américains au comptoir d'un snack. Et ça faisait référence au sitting des étudiants dans certains endroits où on vendait de la nourriture, où ils pouvaient pas être servis au comptoir, quoi. Et c'est une manière de dire, on fait maintenant une musique où on insiste, quoi. On marque le point, on souligne, on frappe sur la table. C'est maintenant qu'il doit y avoir un changement, faut pas le reporter à plus tard, quoi. Et la musique a été quand même le vecteur, le soutien de ça. Ouais. Parce que rien que pour des effets psychoacoustiques, même, de faire une musique qui fait du cri, qui n'est pas dans les attentes logiques, rationnelles, habituelles, apprises de la musique, ça crée une faille, ça crée une interrogation, quoi. Ça crée une ouverture, un vide, qui fait que ça permet peut-être justement le changement, quoi. C'est pas juste une manière de dire non-stop, c'est pas juste de la négation, tu vois, c'est pas juste nihiliste, c'est vraiment aussi que c'est créer quelque chose qui va permettre de remobiliser vraiment tes énergies. Et quand on écoute, c'est plus une musique à écouter live qu'en disque, tu peux le ressentir, c'est une expérience physique et psychologique, quoi. Du free jazz, ouais. We'll be right back.
must be lying. Can it really be? Can conceive it, can believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Freedom Day, it's Freedom Day.
C'était le morceau dont nous parlait Pierre, un morceau de Max Roach, nommé Freedom Day, et issu de l'album We Insist. Et maintenant, un morceau de Aretha Franklin, qui se nomme Take a Look, chanté pendant le Freedom Summer, un mouvement pour inscrire les Noirs sur les listes électorales du Mississippi.
Take a look in the mirror. Look at yourself. But don't you look too close. Cause you just might see the person that you hate the most. Lord, what's happening to this human race? I can't even see one friendly face. Brothers fight brothers, and sisters wink their eyes, while silver tongues bear fruits of poison lies. Just take a look at your children, born innocent. Every boy
peut-être la schématiser, mais il y a eu certains mouvements plus tard, après, dans le siècle, où les personnes peuvent être un peu plus critiques, plus directes, ou alors expriment encore d'autres choses, mais que ça, j'imagine que ce soit la disco, le hip-hop ou la techno de Détroit. Après, il y a encore d'autres formes après qui arrivent avec le temps et qui sont peut-être moins ancrées dans le... Ben voilà, qui peuvent être plus critiques, je pense, et plus véhémentes encore.
Bah dans les paroles, c'est sûr que bon, elles vont être plus bavardes aussi. Hein, dans le hip-hop, les textes s'allongent, quoi. Par rapport à un négro spirituel ou un air de soul. Et c'est pas dès le départ, hein, mais c'est vrai que dès les années 80, le hip-hop se fait, le rap se fait la voix de minorités dans des situations difficiles, dans les ghettos d'abord du Bronx, etc. Et pour essayer de développer une conscience sociale, il va y avoir, c'est ça, mais donc c'est sûr, par les paroles, le texte, il y a une volonté de chroniquer, de décrier aussi, de tendre vers autre chose, de pointer aussi les choses qui vont pas. Donc il y a tout ça au niveau du texte, mais même toujours au niveau juste musical, dans le hip-hop, plus anciennement, hein, parce que maintenant c'est vrai que les instrumentaux évoluent, on est dans des choses parfois un peu plus planantes, ou avec des beats moins percutants, des sonorités un peu plus métalliques ou synthétiques, on est dans d'autres choses, les voix avec les vocodeurs, etc. Mais pendant toute une période, c'est quand même fait à partir de passages très rythmés, percussifs, d'air de jazz, de funk ou autre, de rock, où il y a tout d'un coup le batteur qui joue tout seul, donc un break où les musiciens s'arrêtent, sauf le batteur à qui, parfois avec le bassiste, à qui on laisse la place, il a ses 10 secondes, 20 secondes où il peut jouer. Il joue de manière plus tonique, quoi, avec des syncopes. Et voilà, les DJ pop, ils vont prendre ces passages-là et puis parfois ralentir le tempo ou autre. Mais ce choix de segments musicaux mis en boucle a comme effet aussi de nourrir ton ancrage. Voilà, cette beat avec un sample qui se répète souvent sur une frappe qui va vers le sol, poum poum pa, poum poum pa, et hop, tu reprends, a un effet de t'ancrer, quoi. Et c'est pour résister en effet au vent contraire, au souffle, aux pressions qui essaient de te malmener, quoi, de la société, du monde.
Oui, acquérir son propre rythme.
Voilà, c'est de dire, et moi je suis stable, quoi. Je suis comme un iceberg, quoi. Si c'est un peu ça, si je reste froid. Mais c'est aussi, on ne sait pas me renverser si vite, quoi. La musique, c'est une musique pour qu'on ne sache pas si facilement t'intimider, te renverser, les différents crews, gangs dans les villes, quoi, s'affronter en face à face, quoi. Tu étais avec 5-6 gars, je sais pas, de ton clan, enfin, ou de ton crew, ton gang, et en face d'un autre, et tu vas insulter l'autre, mais en rime et en rythme. C'était une manière aussi de s'endurcir ou de s'outiller par rapport à, voilà, la violence, à la répression, aux insultes. Et ça va devenir ludique, quoi. Ça devient un jeu. Le hip-hop est venu pour essayer d'aider à... Sachant que tu peux pas te relocaliser, rêver d'aller ailleurs, ben comment tu fais pour quand même s'affronter, mais dans des joutes artistiques, quoi, qui donnent l'occasion de donner le meilleur que t'as de toi-même, un peu te mesurer aux autres, mais sans te faire du mal, parce que là, quelque part, tu rends service au système, quoi, tu prolonges le geste du système qui veut juste utiliser ta force de travail, mais que t'es pas une bonne existence. Donc si tu t'entretues en toi-même ou que tu t'abîmes, tu prolonges juste cette destinée qu'on t'a donnée. Donc c'est une manière de redistribuer les cartes, quoi, retourner vers d'autres horizons. Grand Master Flash met les mails dans The Message. Il te rappe le fait, hein, qui sait pas s'enfuir, il y a des cafards dans le couloir, des bris de verre, les junkies, etc., les gars avec des battes de baseball, il en a marre du son, il en a marre du bruit. Ben, il aimerait bien aller vivre ailleurs, mais en fait, il a pas les moyens, et puis de toute façon, une dépanneuse a pris possession de sa voiture. Ça, c'est les premiers vers de Message. Et donc, il invite à plutôt qu'on... Ben, comme tu peux pas te relocaliser ailleurs, ben, il faut essayer de transformer cet endroit... ces buildings des ghettos afro-américains, un endroit où on peut arriver à se soutenir et un peu plus faire attention, parce qu'il rappe qu'il est sur le point de perdre sa tête, quoi. Il est sur le point de craquer, quoi. Il faut faire attention à don't push me cause I'm close to the edge, je suis pas loin du bord, I'm trying not to lose my head, j'essaie de pas perdre ma tête. Donc c'est vraiment de la résistance aussi à... C'est de trouver des manières pour pas être victime de, voilà, d'une précarité, d'une dureté de vie imposée par manque d'éducation, pauvre, pas des bonnes payes, relocalisation dans certains quartiers, il n'y a que là qu'on te fait des bails, qu'on veut bien clouer. Tu te retrouves à 6 dans des appartements faits pour 3-4 personnes, voire à 10, quand tu lis les biographies de rappeurs ou même de Michael Jackson. C'est dingue, hein. T'imagines un immeuble où chaque appartement prévu pour 4 personnes, ils sont 8 ou 10 dedans, parce qu'il y a tous les enfants, il y a l'oncle, ils dorment à 4 dans le salon. C'est déjà des immeubles avec tous des appartes boum boum les uns à côté des autres, mais remplis 2 à 3 fois comme ils devraient l'être, quoi, avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens.
It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell,
can't take the door. I got no money to provide. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes you wonder how I keep going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dangle. Was her gone princess, seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone. Scares my wife when I'm not home. I got a bum's education, double digit inflation. Can't take the train, did a job, did a strike at the station. A neon King Kong standing on my back, can't stop the turnaround. Broke my sacroiliac, mid-range migraine, cancer membrane. Sometime I think I'm going to say, I swear I might have jack a plane. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. Got a smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thug pimps and pushers, and the big money makers. Drive a big car, spend the 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Smuggling, stolers, burglars, and gamblers, pickpocket peddlers, even panhandling. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking round like a pretty boy, boy, turn stick up kid, but look what you done did. Got set up for the 8-year bid, now your manhood is took. You're a Maytag, spend the next 2 years as an undercover bag, being used and abused. Served like hell to one day, you were found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song, how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes you wonder how I keep them going under. It's like a jungle sometimes, it makes you wonder how I keep them going under.
C'était le morceau de Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message, dont nous parlions un peu plus tôt dans l'entretien. Et maintenant, un morceau de Queen Latifah, UNITY, soit Unity, qui parle du harcèlement et des violences de rue.
You ain't a bitch, you're a homie.
flow. Every time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low, you know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring breath to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break the fly. I punched him dead in his eyes.
Who you calling a bitch?
You and I, G-Y. You gotta let him know.
You and I, G-Y.
That's a donut, here we go.
You and I, G-Y.
You gotta let him know.
You ain't a bitch, you're a hoe.
Here we go. Hit the bottom, there ain't nowhere else to go but up.
Right.
Bad days at work give you an attitude and you erupt.
Right.
And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you.
Yeah.
This is my notice to the tool. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gonna come to you till you do right by me. Brother, you ain't sitting in the bitch.
You and I, T.Y.
You gotta let them know.
You and I, T.Y. That's
the one. Here we go.
You and I, T.Y.
Bitch, now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from?
What?
A minute ago, you was a nerd and nobody ever heard of you. Now you a wannabe.
Hard.
You barely know your ABCs.
Please.
There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet?
Young lady.
And real bad girls are the silent type.
Yeah.
Ain't none of this worth getting your face sliced. Cause that's what happened to your homegirl, right? Walking with no
she got to wear that for life.
Who you calling a bitch?
You and I, T.Y.
You gotta let them know.
You and I, T.Y. That's
come on, here we go.
You and I, T.Y.
You gotta let them know.
You ain't a bitch, you're a hoe.
Here we go.
You and I, T.Y.
You have to let them know.
You and I, T.Y.
Come on, here we go.
You and I, T.Y.
You must let them know. You ain't a bitch, you're a hoe.
Même la techno, pour revenir à l'autre approche, la plus générale, c'est une autre manière. C'est aussi une manière de. C'est un peu la prolongation des work songs, on pourrait dire. C'est résister à la déshumanisation du travail, ben, à Detroit, où elle est née, aux États-Unis, en tout cas pour la, dans la culture afro-américaine. La, c'est né à Detroit par quelques. Voilà, Juan Atkins, Derrick May, Kevin Sanderson et quelques autres. Et on a l'habitude de dire ça. Et. Bah Detroit, c'est la ville où sont apparues les lignes de montage, le travail à la chaîne, quoi. C'est là que ça s'est organisé le, de manière vraiment importante, d'abord dans les usines de Ford, puis Chrysler, General Motors. Et c'est là qu'est apparu aussi, donc ça on est dans les années, fin des années 10. Et puis dans les années 60, c'est à Detroit, toujours, je crois que c'est chez General Motors, que sont intégrés dans les lignes de montage, déjà les types... font tout le temps les mêmes gestes, donc c'est vraiment abrutissant et ça demande aucun savoir. Tu prends n'importe qui, tu l'expliques ce qu'il doit faire et maintenant il va faire ça pendant... Alors il y avait des tournantes, heureusement, sinon les gens, c'est mortifère, enfin c'est dépressif, quoi. Mais c'est dans ces lignes de montage où il y avait déjà donc travail à la chaîne et un brouhaha pas possible, aussi assourdissant, parfois, qu'apparaissent les premiers robots, quoi. Robots appliqués à l'industrie, des bras automatisés, etc. Et il y avait beaucoup d'Afro-Américains, parce que c'est une des villes où il y a le plus grand pourcentage. Puis à un moment donné, toutes ces industries vont péricliter, vont se délocaliser. Les personnes plus aisées vont s'en aller, les blancs américains ou autres, et la ville va devenir de plus en plus habitée d'afro-américains, de métis et autres, et devenir une ville pauvre avec plein de bâtiments plus habités, enfin des rues dans le centre-ville à moitié désertes, les renards dans les rues, etc. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la musique techno, parce que ce sont des machines qui correspondaient pas non plus, ce travail, cette pression. La machine, elle a aucun feeling, le robot, il a son rythme. On te le vendait, moi, dans une séance, je monte même une pub quand ils ont vendu le Unimate à Detroit.
C'est quoi le
Unimate, c'est le premier robot, là, un bras articulé. La publicité qui accompagnait la vente, c'était voici le Unimate. Mate, c'est le collègue aussi. Hey, mate, le collègue ou le copain, enfin, comme collègue de classe, quoi. Et le Unimate qui peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre, sans demander d'augmentation, texto, hein, c'est ça, sans demander d'augmentation, et qui peut aussi, par ailleurs, ça c'était vraiment utile, voilà, il peut manipuler de l'acide ou des objets à haute température sans se blesser, enfin bref. Mais on te le vendait aussi comme, voilà, là tu as une forme de main-d'œuvre qui fonctionne encore mieux que les esclaves que tu pouvais faire travailler plein d'heures par jour, 7 jours semaine, et sans qu'ils se plaignent, sans d'augmentation. On te le vendait comme ça, et ils ont intégré, et donc les Afro-Américains se retrouvent avec, comme collègues, comme mates, une machine qui, elle, fonctionne tout le temps, sans pause, qui a un mouvement pensé, conçu au plus efficace qui soit. Tu te demandes, mais moi je suis qui, enfin, comment je suis considéré, enfin, tu es un peu l'associé de, d'où les imaginaires d'androïdes, de cyborg, homme-machine. Et le fait d'utiliser ces sonorités de ces usines, de ces presses, de ces pistons, mais de les utiliser pour pas quelque chose qui te déshumanise, mais au contraire qui te renforce, parce qu'il y a, voilà, il y a des sonorités funky aussi basses.
Mais est-ce que ça irait aussi du coup avec ces moments, bah, du coup de soirée plus festive, voilà, qui peut-être, bah, je sais pas, je lance des pistes comme ça un peu, mais bon, qui libère un peu les gens à certains moments, qui les fait sortir de leur de ce quotidien d'ouvrier ou de chômage,
ça c'est là des la techno pour ça est vraiment la prolongation, on pourrait dire même du boogie woogie dans le blues. Donc dans le boogie woogie, ce jeu au piano où la main gauche marque deux fois chaque temps et imite le son donc du chariot de train à la jonction des rails, talang 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 talang, donc talang 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 talang, la main droite improvise, mais c'est un jeu très rapide, tu doubles le beat, enfin chaque temps, et tu utilises le piano vraiment dans sa qualité d'instrument de percussion, c'est quand même des marteaux sur des cordes métalliques dans une caisse de résonance. Donc c'est un jeu très, en fait c'est une sorte de tambour à cordes, quoi. C'est le boogie woogie était vraiment une manière très une manière de revenir sur un certain héritage africain, afrique noir, mais c'était ça te met aussi dans un état de transe, parce que de jouer comme ça des notes répétitives au piano, tu l'entends plus quand tu l'entends en vrai que sur disque. À un moment donné, t'as des hallucinations acoustiques, ça fait un brouhaha de notes, ça sonne dans ta tête, ça te met dans un état second, puis de toute façon tu bois de l'alcool, de maïs ou de gin qu'on te vend dans l'endroit, mais et tu danses là-dessus sur toute la nuit sur une musique un peu quand même répétitive. Bah c'est sûr, eux disaient que ça te relocalisait, quoi. De la même manière que ce train t'emmène ailleurs, enfin c'est la musique du train, du chariot, il te relocalise, bah là, d'avoir dansé toute la nuit là-dessus, non seulement ton fardeau là sur l'épaule il est un peu déposé, il est allégé, mais tu te sens ailleurs. C'était pour t'aider à arriver à cette rare expérience qui est recherchée de... Tiens, tu te sens avoir été transformé, même être comme un autre endroit, t'es au même endroit, mais tu le sens autrement.
Ah, tu t'as pas oublié, puis après avec la socialisation, par la socialité qu'il y a dans ces fêtes, là, ça, tu restes connecté, je pense.
C'était en groupe. Ça, c'était aussi une manière de résister à la dureté du travail. On allait danser là-dessus vendredi et samedi, et bon, après, ça pouvait participer... Les révérends disaient que ça t'abrutissait parce que ça finissait mal, l'alcool. Il y avait souvent des morts, quand tu voyais les récits, ou en tout cas des graves blessés, mais à la fin de la nuit, il y avait souvent un mort sur le sol, on te dit, raconte dans les Babel House, Joke Joint. Mais c'était une manière de retrouver quand même de la force et surtout une sorte de nettoyage, quoi. Et dans la techno, il y a quelque chose de ça aussi, de reprendre ce son des machines, là, pas de, du chemin de fer, mais des usines, pour résister à cette déshumanisation, c'est cet abrutissement du travail, et le fait, et faire que tu n'es pas seulement un habitant, voilà, de Detroit, des États-Unis, mais tu es un habitant du cosmos.
Really don't think you understand any of this. C'était le morceau Low Tech Reality de Mad Mike, qui, avec Jeff Miles, est à l'origine du collectif Underground Resistance de Détroit, et qui, en réponse à l'exploitation musicale et les fourberies des radios et de leur programmation, a créé Submerge, une structure de distribution, ainsi que le shop Somewhere in Detroit, avec sa sœur, avec qui il a également créé Exhibit 3000, un musée préservant l'histoire de la culture de la musique électronique à Détroit.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM pour l'émission Musique en lutte. Nous approchons de la fin de l'émission, alors voilà, ça va être nos classiques rubriques de fin d'émission. En commençant par la présentation d'un livre en lien avec le sujet qui nous anime aujourd'hui. Et voilà, ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler du bouquin « Turn the Beat Around » de Peter Shapiro, dont le sous-titre est « L'histoire secrète de la disco ». C'est sorti aux éditions Alia. Et voilà, ça retrace toute l'histoire de la disco, ce qui l'a amené avec ses prémices dans les années 40 jusqu'à l'époque actuelle. Et là, j'ai choisi un extrait qui évoque les années avant l'arrivée de la disco, donc autour des années 68, à la suite des combats pour les droits civiques. Donc, 1968 fut l'année des assassinats de Martin Luther King et de Bobby Kennedy, celle où la guerre du Vietnam devint le plus long conflit de toute l'histoire américaine, et également celle où des centaines de manifestants furent tabassés par la police de Chicago lors de la Convention nationale démocratique. Mais ce fut aussi l'année au cours de laquelle la National Advisory Commission on Civil Disorders, mise en place par le président Lyndon Johnson et dirigée par Otto Kerner, gouverneur de l'Illinois, rendit une enquête portant sur les causes des émeutes raciales qui avaient enflammé plusieurs grandes villes américaines quelques années auparavant. Le texte constatait que les États-Unis tendaient à se scinder en deux sociétés, l'une noire et l'autre blanche, séparées et inégales, et encourager donc les initiatives liées au progrès éducatif, à l'amélioration du marché de l'emploi ainsi qu'à l'offre de logements et aux services publics au sein des communautés noires. De manière plus radicale, il allait jusqu'à recommander un système de complément de revenus. Le gouvernement fédéral n'avait jamais reconnu aussi clairement que oui, l'Amérique était une société raciste et que oui, encore, les griefs de la colère des Noirs des villes étaient parfaitement justifiés. Cependant, Nixon se trouvait déjà aux manettes du pays au moment où sortit « I heard it through the grapevine » et le retour de bâton avait donc bel et bien commencé. Le rapport Kerner fut une promesse de plus à partir en fumée. Grapevine saisissait bien le climat de la nation dans son ensemble et plus spécialement celui qui planait sur sa communauté noire. Initialement inspirée par un motif de Ray Charles, cette version paranoïaque animée par un bouillonnement intérieur effrayant et obscur semblait redonner au terme argotique grapevine la signification littérale qu'il avait à l'époque de la guerre de sécession, celle d'un moyen de communication exclusivement utilisé entre noirs. Les rumeurs, les murmures, l'incertitude, la peur, tout cela se trouvait résumé dans « I Heard It Through the Grapevine ». La chanson ne demeura pas le seul objet de discorde entre Whitfield et la stratégie relativement conservatrice de Motown en termes de contrôle qualité. Lorsqu'il entendit pour la première fois la fusion rock-soul de Sly and the Family Stone, le producteur sut immédiatement qu'il s'agissait du son de demain. Malheureusement, personne d'autre ne lui donna raison chez Motown. Whitfield put néanmoins tenter une expérience lorsque David Ruffin, le chanteur principal des Temptations, quitta le groupe en 1968. Whitfield poursuivit dans cette voie avec War, mené par la voix de Stentor Deadwin Starr, qui atteignit en 1970 la première place des charts et reste sûrement le plaidoyer pacifiste le plus virulent de l'histoire de la musique. Cette nouvelle vague de soul radical fut incarnée de manière on ne peut plus convaincante par le titre « Stealing in the Name of the Lord » de Paul Kelly. Là où la plupart des autres titres du genre recouraient à une production volontairement ténébreuse pour poser l'atmosphère, la chanson de Kelly se démarquait en annonçant clairement ses intentions belliqueuses et désignant encore plus clairement sa cible. Les arrangements puisaient directement dans le gospel, au premier plan un motif de guitare influencé par Sister Rosetta Tharp, et au centre une phrase de piano du style « Holy Roller » et un cœur plein d'enthousiasme. On aurait presque pu croire à une suite de Oh Happy Day des Edwin Hawkins Singers, sauf que Kelly ne chantait pas vraiment les jours heureux et que sa chanson n'aurait pu résonner dans aucune église du monde. Les paroles dénonçaient les manipulations de charlatans religieux comme Father Divine, qui exploitaient le désespoir et la soif de foi des couches les plus pauvres de la population.
Voilà, je laisse place à Adrien pour vous présenter les prochains événements.
Alors, salut à tous. Alors, pour cette émission, nous proposons plusieurs événements, dont deux qui ont lieu ce samedi 30 mars. Le premier a lieu dans un endroit qu'on ne présente plus, la Parole Errante à Montreuil, et ce pour fêter les 17 ans des éditions Libertalia. De 15h à minuit, des débats et des concerts avec notamment Oxni, artiste de rap féministe des bien des terres, Jim Murple Memorial, qui est un groupe de rhythm and blues jamaïcain, mais aussi de soul, de rocksteady et de ska. Ça promet d'être de bien déhanché. Et pour finir la soirée, un DJ set de ALXX dans un style two-step basse musique. L'entrée, comme d'habitude, est à prix libre. Pour le second rendez-vous, au Batiscaf à Aubervilliers, dans le cadre du festival Les Digitales, festival d'écologie politique. Et ce, à partir de 19h, pour une soirée de solidarité contre toutes les expulsions. Une cantine de solidarité au collectif des jeunes mineurs isolés du parc de Belleville sera présente pour se restaurer. Niveau musique, deux salles, deux ambiances. Une scène punk, une scène drag et DJ set iconique. Entrée, prix libre. Et pour finir, le mercredi 10 avril, le club à Paris accueillera des concerts de Stop the Press, un groupe de reggae steady ska originaire de Brooklyn aux États-Unis. Ils sont rejoints par The Mercenaries, qui proposeront un style punk rock et reggae militant. La prévente est de 8€ et 10€ sur place. Alors vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site web musiqueenlutte.noblog.org. Et on arrive à la fin de l'émission, encore merci d'avoir écouté jusqu'ici, et nous on se retrouve le jeudi 25 avril pour une nouvelle émission. Allez, merci, bonsoir.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire, 89.4. C'était Psylonia.
Cuando alguien me quería por el salvo penando. Los auditeurs d'ato.
Eh ouais, c'est comme ça.
Si je...
بجراء تحقيق دولي وكشف
الحادثة. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, 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 Epsilonia,
Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia. J'ai ma casquette qui tape dans le métro, dans le micro. Dans le métro, j'ai dit n'importe quoi. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM. FM. Faut que j'arrête de sortir sans écharpe et en fumant des clopes. On est ensemble aussi sur Pinode, hein, bon, sur Pinodois, Pinodoise. Et au Soniqueur, Soniqueuse de Sonic Protest, parce que c'est en ce moment. Je ferai un point à la pause pour les concerts de demain et d'après-demain. Ce soir, si vous écoutez là, c'est que vous n'êtes pas au concert, donc je ne vais pas vous faire la pub. Alors ce soir, une émission spéciale, un mix spécial autour des outsiders, des pionniers de la musique électronique américaine, mais vraiment les outsiders, ceux qui avaient des studios chez eux, qui sortaient des disques dans leur coin, en général. Un seul disque, et après disparaissait de la circulation. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la besace? Donc, ce sera un volume 1, il y en aura un 2, un 3 sûrement. Thomas Hamilton avec Pieces for Cone, ou Cone, un peintre.